Eh bien, bonjour Bernard Blot, vous sortez le livre Insolite chronique de Creuse, sorti aux éditions Les Ardents Éditeurs. Vous avez écrit ce livre et Alain Frétet a fait les dessins. Vous pouvez un peu vous présenter pour les auditeurs qui vous ne connaîtraient pas. Vous êtes écrivain, poète, conteur, et vous faites ça à plein temps. Vous faites ça.
Oui, je fais ça à plein temps. Mais si vous voulez, mon métier a varié parce que dans la vie, les choses changent. Au départ, j'ai été détaché à la Ligue de l'Enseignement, à la Fédération des Évêques de la Creuse, pour animer dans chaque école normale de l'Académie de Clermont à laquelle nous appartenions à l'époque, enseigner, aider les instituteurs qui restaient souvent très longtemps dans le même poste, les informer des responsabilités culturelles qu'ils auraient sans doute. Voilà. Alors, à cette époque-là, on appartenait à l'Académie de Clermont. Il y avait une cinémathèque à Clermont qui louait des films à toutes les amicales laïques, à toutes les associations locales. Et mon rôle, moi, ça consistait à dire, eh bien, vous n'avez pas seulement, je dirais, la charge de l'école avec ce que cela implique, vous avez aussi, dans la commune où vous allez arriver, une charge culturelle qu'il faudra assumer et que l'école normale n'a jamais prise en compte. Et c'était moi qui faisais ça. Et j'allais dans chaque école normale, pas de l'Académie de Clermont, donc, hein, et j'animais un stage qui durait 8 jours pour les aider à se poser les questions. Qu'est-ce que ça veut dire présenter un film? Qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre? Quel répertoire est accessible? Qu'est-ce que c'est que mettre en scène une pièce, etc., etc. Et c'était mon travail. Je passais 8 jours dans chaque école normale de l'Académie qui, à cette époque-là, comportait la Corrèze, la Creuse, l'Allier, le Clermont-Ferrand, bien sûr, jusque très loin de, enfin pas très loin, mais assez loin de chez nous, dans le Cantal, voilà.
Donc vous avez beaucoup voyagé, en tout cas dans les départements limitrophes de la Creuse, et c'est ça qui vous a inspiré le goût d'écrire, en plus de peut-être de t'isoler un petit peu, vous partiez un peu loin de votre famille pendant cette période-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous ne sommes pas creusois, ma famille n'est pas creusoise. Mmh. Nous sommes arrivés dans la Creuse en 1942. En 1942... Mon père a passé un concours qui était le même pour la France occupée par les Allemands et pour la France dite libre, celle de Pétain et de Laval. Il y avait un concours pour les employés des postes qui s'occupaient du téléphone. Il y avait 2 services dans les postes pour le téléphone. Il y avait le service des lignes. C'était donc les installations avec les poteaux, avec ceci. Et puis il y avait le service du suivi du téléphone, des réparations, etc. Voilà. Et mon père a passé un concours pour être responsable de ce 2e service. C'était le même concours pour la France libre et pour la France occupée. Et il a été reçu en tête. Donc ça lui a donné le choix du lieu où il souhaiterait travailler. Et son choix, ça a été un département en zone dite libre, qui n'était pas libre du tout, c'était la zone de Pétain et de Laval, hein, mais elle était nommée comme ceci. Et il a lui qui était Beauceron, Orléanais, on habitait à Les Aubrais, on habitait à 300 mètres de la gare des Aubrais, il a voulu aller dans un département un peu perdu, loin, pas loin de notre famille, parce qu'on avait beaucoup de familles à Bellac.
Hein. D'accord.
Et il a été nommé à Guéret. Et on n'a pas habité à Guéret, on a habité à Saint-Sulpice-le-Guérétois, c'est-à-dire une grosse commune à côté de Guéret. Et moi, j'avais à ce moment-là, je suis né en 32, donc en 42, j'avais 10 ans, mon père tenait absolument à ce que je rentre en 6e, et à Saint-Sulpice-le-Guérétois, je suis rentré dans une classe où il y avait 35 élèves, dont 33 allaient passer le certificat d'études, et deux, la fille de l'instituteur et moi-même, allaient rentrer en 6e. Et on a préparé la 6e, voilà. Qu'il fallait, à l'époque, pour entrer en 6e, on avait un examen, c'était assez compliqué, et j'ai préparé ça, donc, à Saint-Sulpice-le-Guérétois, dans l'école qui a été dirigée à l'époque par Monsieur Bordas, qui allait devenir d'ailleurs un instituteur de l'école annexe, donc qui était déjà quelqu'un qui était assez connu pour sa qualité d'instituteur. Voilà. Et mon père a tenu à habiter la campagne. Pourquoi ? Parce que il savait, il y avait beaucoup de responsables de petites propriétés. Vous savez, à ce moment-là, les propriétés étaient toutes petites. C'était des propriétés de 4, 5, 7, 8, 10 hectares. À 10 hectares, on commençait à avoir une propriété presque, je dirais pas importante, mais beaucoup plus importante que la plupart. Et mon père, sachant qu'il y avait beaucoup de prisonniers en Allemagne, donc de femmes seules avec leurs anciens et avec leurs enfants pour faire tous les travaux de la ferme, mon père s'est dit qu'il pourrait donner un coup de main, lui qui avait travaillé en Beauce, il avait travaillé avec les chevaux, et il avait appris à travailler après avec les bœufs. Et il s'est dit que finalement, ça serait pas mal de vivre à la campagne, et c'est pour ça qu'il a choisi de vivre donc à Saint-Sulpice-le-Guérétois, où on avait une petite maison, et où finalement j'ai préparé ma classe de 6e, voilà.
Et comment vous en êtes arrivé à l'écriture ? Parce qu'il y avait des livres chez vous, ou est-ce que c'est en écoutant des histoires racontées par les gens ?
Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie. Le père Bordas, notre institut de chic, père Bordas, c'est très familier, mais on l'aimait beaucoup. Hein. Donc, notre instituteur, M. Bordas, qui était directeur de l'école de garçons, laquelle école de garçons avait 35 élèves, je vous l'ai dit. Hein. Mmh. Et Père Bordas, c'était un homme, il jouait d'un instrument de musique, il faisait de la musique. Quand arrivait la fin de la journée, il descendait de son bureau, il s'asseyait à une table avec les élèves, et il faisait plein de choses qui nous surprenaient. Par exemple, un jour, il va au tableau et il écrit ceci. Corneille poussive, et vous les loups maigres, par ces bises aigres, quoi donc vous arrive ? Et il se retourne et nous regarde. Mais qu'est-ce qu'il a le père Bordas ? Il est en train de perdre la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Toi, Bernard, qui lis pas trop mal, dit-il en s'adressant à moi, dis ça. Et moi, je commence à déchiffrer ça. Corneille poussive, et vous, les loups maigres, par ces bises aigres, quoi donc vous avez... Tu lis comme un cochon. Je vous jure... On peut se tutoyer, on se connaît bien. Je te jure que on disait, mais il est en train de perdre la tête, le vieux. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et il reprend la lecture. Corneille poussive, et où les loups maigres, par ce bise aigre, quoi donc vous arrive? Alors là, on était muet de stupeur. On ne comprenait rien, mais on se disait qu'il y avait là un langage qu'on ignorait, et avec lui, avec lequel lui, Monsieur Bordas, avait un commerce particulier et qui avait l'air particulièrement intéressant. Voilà, c'est une anecdote, hein, mais cette anecdote, elle, si je la raconte comme ça, c'est parce que elle est encore là chez moi. C'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait un langage particulier qui s'appelait la poésie. Et que la poésie, à la première lecture, n'était pas toujours facile à appréhender, mais qu'elle avait la charge de mystère et de beauté qui jusque-là nous avait échappé. Que je vous dise aussi qu'en sortant de l'école de Saint-Sulpice-le-Guérétois le soir, ça dépendait des soirs, parce qu'il y avait la préparation du certificat d'études, les filles et les garçons, les filles à l'école de filles avec la femme de Monsieur Bordas, et puis les garçons, donc, avec le père Bordas. Et il y avait à la porte, les soirs d'été, à la porte de l'école, qui était la porte de la mairie, c'était la porte de l'école était à côté de la porte de la mairie, bien sûr. Il y avait un vieillard qu'on amenait dans un fauteuil, et tenez-vous bien, ce vieillard avait fait la guerre de 70.
Oui.
J'ai connu, en 42, un vieillard qui avait fait la guerre de 70.
Oui, là, c'est...
Saint-Sulpice-le-Guérétois. Alors pour nous, c'était l'histoire, et l'histoire, elle était là. Avec ce vieux qui était là, qui était très taiseux, il ne parlait pas, on l'amenait dans un fauteuil, il restait là entre la porte de la mairie et la porte de l'école, un peu lointain, distant, mais il avait fait la guerre de 70. Pour nous, c'était un personnage historique, et d'un seul coup, l'histoire, elle était là. Vous voyez, c'est des souvenirs que... Je n'exagère pas, hein. ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Voilà.
J'ai l'impression que votre amour de la littérature, de la poésie, des contes, est venu par l'oralité, je me trompe?
Oui. C'est pas venu si vite que ça, hein, je veux dire, mais c'est vrai que d'un seul coup, j'ai pris conscience qu'il existait un langage particulier qui jusque-là n'avait été pour nous abordé que sur des poèmes qui en fait étaient dans le rituel scolaire, aussi bien sur la manière de dire « Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage hein. ». Aussi bien, il y avait une espèce de rituel de diction, et voilà, on n'accordait pas plus d'importance à ça. Puis d'un seul coup, on s'est aperçu que Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Ah, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. Voilà.
Merveilleux.
D'un seul coup, non seulement il y avait sur des poèmes que l'on connaissait, quelque chose de nouveau dans la manière de les appréhender. Mais en plus, ce quelque chose de nouveau disait des choses nouvelles. Voilà. C'est comme ça que les choses, peu à peu, se sont faites. Voilà.
Je vais en revenir au livre Les Insolites Chroniques de Creuse que vous sortez chez les Ardents Éditeurs. C'est plein de petites histoires. Il y a plein d'histoires. Très bien illustrées, d'ailleurs.
C'est que depuis 19 ans, on tient avec mon copain Alain Frété un calendrier littéraire annuel, voilà. Et tous les 6 ans, ce calendrier littéraire, on en fait un album.
D'accord, c'est pas la première fois que vous sortez ces chroniques.
C'est-à-dire qu'on reprend les textes qui ont été dans le calendrier, mais qui sont bien sûr très court, parce que le calendrier, il y a la forme d'une carte postale, quoi, à peu près, hein. Et on reprend tous les 6 ans, on reprend donc ces textes, on les réécrit pour un album de chroniques. Voilà. Et ces chroniques, tous les ans, ont, je dirais, un qualifiant particulier. Et cette année, le qualifiant, c'est insolite.
Et je me demandais, ces histoires, c'est vous qui les avez inventées ou c'est vous qui les avez recueillies ?
Les histoires ?
Oui, les histoires.
Il y a les deux. Je veux dire, on est conteurs, l'un et l'autre. Lui, il l'est par ses dessins et moi, je le suis par mes textes. On est conteurs, tous les deux, entre autres, parce que, bon, on fait d'autres choses, quoi. Mais c'est vrai que quand on avait fixé le thème du calendrier annuel, bien chacun d'entre nous, abondait ce calendrier qui allait être encore enrichi, enfin enrichi, j'en sais rien, c'est ce qu'on aurait souhaité, enrichi quand on en faisait un album. Et il y a eu 3 publications de chroniques creusoises. Hein. Et là, il y en a eu 2, pardon. Et la troisième, là, elle est très importante parce que moi, j'ai décidé de ne plus faire de calendrier. Et on a donc, la place, les textes pour faire un dernier album. Et un album important parce que au lieu de comporter 12 calendriers, il en comportait 19. Donc le dernier album que l'on sort là est particulièrement important puisqu'il comporte le développement de 19 calendriers. Voilà. C'est à ce point d'ailleurs que dans la mise en page, on a eu un problème. Il restait 4 pages blanches à la fin de l'album. Et on m'a demandé de trouver quelque chose pour que ces 4 pages blanches ne soient plus blanches. Voilà. Et on a beaucoup travaillé. Puis voilà, c'est le bouquin qui sort là. Donc, et qui est le troisième album sur les chroniques de Creuse.
Très bien. Vous avez d'autres projets maintenant ? Vous avez arrêté de faire les chroniques pour vous consacrer à autre chose ?
Non. Alors d'abord, j'ai plusieurs livres qui doivent sortir. Il y a donc cet album là qui vient de sortir, hein, cet album insolite qui vient de sortir. Et puis après, on a un livre qui doit sortir, je pense, cet été, sur la tradition orale et écrite du Puy-de-Gody. Il va sortir, là, C'est un livre qui fait état de la tradition orale sur le Puy de Gaudy, les contes, les légendes, les ceci, les cela. Voilà. Il va sortir.
Okay.
Ensuite, nous avons décidé, avec une illustratrice que j'aime beaucoup, qui habite à Mago, qui est l'ami du maire de Francèche. Et j'ai écrit pour elle un texte sur une visite de Mago, qui va sortir vraisemblablement vers Noël. Voilà. Une visite de Mago, voilà, qui est illustrée donc par cette personne, cette femme dont je vous parlais, hein, et qui va faire l'illustration de cette visite de Mago. Voilà. Donc vous voyez, il y a sur le chantier, il y a du pain sur la planche.
Très,
voilà.
Très bien. Bah, merci beaucoup Bernard Blot d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Oh, bah, c'est normal.
Au revoir.
Au revoir.